Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Tout pile sur RMC, soyez les bienvenus, c'est l'Intégral Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, on va prendre la direction de Budapest. Une dernière fois, après une semaine de compétition, ce sont évidemment les championnats du monde de natation. Ça se termine ce soir et on ira notamment pour la finale du 1500 mètres de Damien Joly. Ce sera aux alentours de 18h15, ne manquez pas ce rendez-vous. On a d'autres directs évidemment sur les championnats de France d'athlétisme à Caen, avec ce moment tant attendu à 18h20, la finale du 800 mètres masculin avec une densité importante. Et puis dans un quart d'heure, on va débriefer la saison passionnante de Top 14 que l'on a vécue et qui s'est achevée hier par le titre de champion de France de Montpellier. Wilfried Templier et Julien Landry vont nous rejoindre. Et puis à 18h40, une invitée dans l'Intégral Sport, Audrey Cordon-Ragot, championne de France de cyclisme. Elle a remporté la course en ligne cet après-midi à Cholet. Seulement deux jours après sa victoire sur le chrono, l'individuel, donc magnifique performance qui n'avait plus été réalisée depuis 2014. Elle sera avec nous. Et puis enfin, à partir de 19h, on va se projeter sur la finale, le match 5 de la finale du championnat de France de basket entre l'ASVEL et Monaco. Match à suivre ce soir à partir de 20h30. On sera en compagnie de Stephen Brun, Jérémy Donzé et un invité, Ali Traoré, double champion de France avec Villeurbanne. C'est parti pour l'Intégral Sport. Et tout de suite, on va prendre la direction de Budapest, justement, les championnats du monde de natation et les finales de la dernière journée qui vont démarrer. Julien Richard, re-salut Julien.
Salut Benoît, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, ça va démarrer 18h17, la première médaille. Je m'avance un peu vite. Ouais. La première finale qui concernera un Français, en l'occurrence Damien Joly, en finale du 1500 mètres nager. Et là, pour le coup, le podium sera pas évident à aller chercher, même s'il a réalisé le cinquième temps des séries hier matin. Mais il y a des très très gros clients, les tout meilleurs sont là. Le champion olympique qui a gagné 800 mètres également, Fink, qui a Florian Wellbrock l'allemand, Romanchuk l'ukrainien, Paltrinieri l'italien, bref, que du beau monde. Et puis deux relais pour terminer, c'est la tradition, le relais 4 nages avec d'abord les garçons à 19h20, Johan Endoy-Brouard, Antoine Vicera, quelqu'un que vous commencez à connaître maintenant, Léon Marchand sur le parcours de papillon,
un petit peu, oui.
Et un autre médaillé, double médaillé, même Maxime Grousset, pour terminer ce relais 4 nages qui a terminé deuxième temps des séries. Mais tu sais, le relais, c'est un peu comme en foot, Benoît. En série, on met les remplaçants. Quand on est parmi les grosses nations, les très grosses nations, on pense aux États-Unis par exemple, ou Grande-Bretagne. Et puis en finale, on met les titulaires. Et la France, dans cette situation, n'a pas de réserve. C'est-à-dire que c'est les mêmes relayeurs, hein, clairement. Donc il faudra qu'ils élèvent leur niveau. Mais pourquoi pas aller jouer, en tout cas, matcher dans une finale. Ils sont ambitieux, ils aiment ça, on l'a vu tout au long de la semaine, cette jeune génération. Donc sur ce, 4 fois 100 mètres 4 nages. Et puis pour les filles, ce sera un peu plus compliqué là aussi. Elles ont terminé 8e temps des séries, mais elles se sont qualifiées. Et donc pour cette finale, Emma Terrebo, Adèle Blanchetière, Marie Wattel et Charlotte Bonnet pour la composition du relais.
Tu veux dire qu'on a un bon 11 de départ, mais pas de profondeur de banc, quoi.
Et c'est exactement ça. C'est ce à quoi va travailler maintenant le staff de l'équipe de France, notamment pour les relais.
Bah oui.
Essayer de trouver de la profondeur de banc pour permettre d'être performant justement sur ces relais dans les grandes
2020.
Compétitions qui ont fait les grandes heures de la natation française. Souvenons-nous quand même que le 4x100 a apporté énormément de médailles et il n'y en avait pas cette année, par exemple, de 4x100 nage libre.
Alors,
pour l'équipe de France.
Julien, on regarde là cette dernière soirée de finale par le prisme français, mais est-ce qu'il y a des courses sympas pour les amateurs de natation? Par exemple, là, je vois qu'il y a des dossistes qui se mettent en place. La finale du 50 mètres d'eau, est-ce que c'est le genre de finale qui est quand même intéressante sportivement? Est-ce qu'il y a des champions qui vont se battre dans quelques secondes?
Ça nous permet de parler de quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de ces championnats du monde. On a Hunter Armstrong, le recordman du monde, qui apparaît justement derrière les plots pour cette finale, qui sera le favori. Mais c'est une des disciplines où il manque le plus, ce sont les nageurs russes. On pense notamment à Rylov et Kolesnikov, qui sont exclus, vous le savez, des compétitions internationales depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Rylov, d'ailleurs, tu sais, qui faisait partie de ces sportifs russes qui ont manifesté pour la guerre avec le Z, tu sais, à Moscou au début de la guerre. Et je peux te dire que ça a laissé des traces, notamment chez un nageur ukrainien que l'on retrouvera tout à l'heure en finale du 1500 mètres, Romanchuk, qui était dans la même équipe que lui sur l'ISL, la Ligue professionnelle, et qui a déclaré cette semaine que s'il le croisait, ça se passerait très mal. Donc voilà, c'est une illustration aussi de quelque chose qui est toujours sous-jacent dans ces championnats du monde. Évidemment, ça fait partie de l'histoire de ces championnats, et notamment sur le dos, où il y a parmi les meilleurs mondiaux deux dossistes, notamment Rylov et Kolesnikov, qui ne sont donc pas là. Mais il y a d'autres belles choses. Il y a 50 mètres nage libre avec Sarah Sjöström, qui est exceptionnel. Voilà. Et puis les relais, c'est toujours spectaculaire pour terminer. Pour terminer cette compétition. Et puis je te dis, le 1500 mètres, c'est vraiment... alors c'est une épreuve un peu obscure peut-être pour le grand public, c'est long, hein, ça dure un peu moins d'un quart d'heure, mais c'est là je peux te dire que c'est la guerre des étoiles.
Sur, physiquement sur le 1500 mètres doit être infernal. Hein.
Et c'est les nageurs, tu sais, que l'on retrouve sur le 10 km,
oui, ensuite,
Will Brock, qui est champion olympique du 10 km,
en eau libre,
qui est présent dans cette finale, en eau libre.
Ok. Écoute, tu nous tiendras informé tout de même de ce qui se passe dans les autres finales, et puis on rappelle le principal rendez-vous à venir sur RMC, c'est donc 18h17, cette finale du 1500 mètres nage libre, avec une chance de médaille française, pourquoi pas. Damien Joly, on suivra les relais. Je vous rappelle pareil là, les horaires, la finale à 19h20 du 4x100 mètres 4 nages messieurs, avec notamment nos champions Léon Marchand, Maxime Grousset, puis 19h38 4x100 mètres 4 nages dames, avec Marie Wattel et Charlotte Bonnet notamment. Tiens, tu veux rapidement suivre ce 50 mètres qui va se terminer, qui vient de se terminer d'ailleurs à l'instant.
Oui, avec Justin Rice, c'est la surprise, qui a battu son compatriote Victor Armstrong, doublé américain. Je peux dire que l'hymne américain, on l'entend depuis le début de ce championnat du monde. On n'a pas fait les comptes, mais ils sont monstrueux, les nageurs américains. Le recordman du monde, en tout cas, a été battu par son coéquipier, 24 secondes et 12 centièmes. Il y a 2 centièmes d'écart seulement entre ces deux-là. La troisième place pour un Polonais, Xaveri Maciuk.
Voilà. T'es là en plus sur la prononciation. Bravo Julien. Allez, on revient tout à l'heure pour le départ du 1500 et la course de Damien Joly. L'autre direct de ce début de soirée sur RMC, c'est évidemment l'athlétisme. À quand les championnats de France ? Est-ce qu'il y a de la pluie ? Toujours pas, j'espère, Valentin Jamin.
Toujours pas. Alors là, il fait beau, il a plu un petit peu, on va pas mentir. Il y a eu quelques gouttes, mais c'est très, très vite passé. Non, franchement, là, c'est agréable. Petite éclaircie, peut-être allez, une quinzaine de degrés. Donc pour les athlètes, en tout cas, temps idéal pour la fin de cette journée sous le soleil à Caen.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé depuis le début de l'après-midi, là, Valentin ?
Tout à fait. On peut même revenir, si vous voulez, sur les quelques médailles qui ont été distribuées en cette fin de journée. Yannis David qui a remporté le titre saut en longueur femme, c'était la grande favorite. Amanda Ngandou Toumba qui a remporté le concours du lancer de poids femme. Et puis chez les femmes encore, le javelot remporté par Alizé Minard. Et puis on arrive là doucement sur les courses, le sprint. On a eu les séries du 100 mètres masculin. On rappelle, il y a cet enjeu évidemment du titre de champion de France. Il y a l'enjeu des minima pour les championnats du monde de Eugene qui ont lieu cet été. C'est 10-03 pour les garçons. Aucun Français ne l'a fait. Aucun Français ne l'a fait non plus aujourd'hui lors des séries. On a plutôt coutume de dire que lorsqu'on fait ce genre de performance, c'est évidemment lors des finales où il y a plus d'enjeux, mais pas de surprise. Jimmy Vico est passé, Mouamadou Fall est passé, Jeff Ferrius est passé notamment. Donc ça l'a fait pour les favoris. Michael Mbazézé également. Donc on va tous les retrouver, ces garçons, pour la finale de ce 100 mètres masculin qui aura lieu à 19h, et on est en cours là au niveau du sprint encore chez les garçons. Les séries du centimètre.
Ah, bah oui, ça nous intéresse, ça, bien sûr.
Masculin, il y a des absents. Voilà. Aurel Manga a remporté la première de ces séries, il est donc qualifié pour la finale. La deuxième série arrive avec Jusko Maté, qui est le seul à avoir fait les minima pour les mondiaux cet été. Il y avait Wilhelm Bélossian qui les avait fait aussi, mais lui ne sera pas de la partie cet été parce qu'il est blessé aux ischios jambiers, donc forfait pour ses championnats de France et forfait pour les mondiaux cet été. Wilhelm Bélossian, ça veut dire qu'il y a encore de la place pour aller claquer les minima pour cet été. Aurel Manga Lévis, lui qui vient de passer en finale. Sacha Zoya Lévis également, on le retrouvera dans la troisième série de ce 110 mètres haies, et donc à suivre là juste Kouaou Maté. On est en train de faire les présentations, juste Kouaou Maté qui partira couloir 6, quatrième performance européenne de l'année pour lui. Vous l'entendez peut-être derrière moi d'ailleurs, on est en train de dire un petit peu ce qu'il a fait cette saison. Donc jusqu'au maté dans quelques minutes. La finale, ce sera la dernière, le 110 mètres ce soir à partir de 19h45 tout à l'heure.
Ok, bah écoute, on va suivre quand même assidûment ce qui se passe à Caen. C'est vrai qu'on a des images, donc il y a des éclaircies pour l'instant en Normandie. La course va se disputer dans de bonnes conditions a priori.
Oui, oui, a priori, tout va bien se passer. Et puis rendez-vous, tu disais tout à l'heure, mais 18h20, hein, soyez bien là, parce que 800 mètres masculin, Pierre-Ambroise Boss, Benjamin Robert et Gabriel Tual, trois grosses pointures. Est-ce que vous voulez suivre cette série?
Fais-toi aussi ta série, on va voir si on te garde pour la finale, vas-y.
Il n'y a pas de souci, c'est juste qu'évidemment, à chaque fois, ça prend un petit peu de temps, le temps de dire à vos marques que les athlètes se préparent. Donc pour cette deuxième série du 110 mètres haies chez les garçons jusqu'au maté qu'on va suivre, couloir numéro 6, le silence qui se fait dans le stade après ce Avomarque. Tout le monde est dans les start. Kenny Fletcher, couloir numéro 1, Romain Henry, couloir numéro 2, Léon Hédon, couloir numéro 3, Melville Clarico numéro 4, Morgan Fournier couloir numéro 5, jusqu'au maté numéro 6, Léo El Akchar numéro 7 et Richard Diawara Matingu couloir numéro 8. Le coup de pistolet donné dans quelques instants dans ce stade d'Elitas de Caen, silencieux, encore bien rempli sous le soleil. Ça a donné envie aux gens de rester. C'est parti avec le bon départ, évidemment, couloir numéro 6 de jusqu'au maté, couloir numéro 7 également de Léo El Akchar et jusqu'au maté qui se dégage largement, quatrième meilleur performeur européen cette saison, qui va s'imposer très très loin devant la concurrence. 13-44, magnifique performance pour jusqu'au maté qui va rejoindre la finale en favori. Quasiment, en tout cas, il va vraiment se battre
pour le podium,
pour la médaille. Il avait une grande avance sur ses concurrents.
Bon, bah, très bien. Écoute, on le suivra pour cette finale du 110 mètres haies un peu plus tard dans la soirée. Les championnats de France d'athlétisme à Caen, à suivre évidemment sur RMC. 18h10, vous écoutez l'Intégral Sport. Retour à Budapest dans un instant pour le départ de cette finale du 1500 mètres messieurs avec Damien Joly, la suite des championnats de France d'athlé, puis un petit peu de rugby, tout de même le bilan de cette saison fantastique de Top 14 que vous avez suivi sur RMC, qui s'est achevé hier par le sacre de Montpellier, premier titre de champion de France pour le Montpellier Hero Rugby après sa victoire en finale contre Castres. On va débriefer tout cela avec Wilfried Templier et Julien Landry. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h13 sur RMC, vous écoutez l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 20h et je vous rappelle certaines actualités sportives de la journée, notamment ce titre pour Caroline Garcia. Elle a remporté le tournoi sur gazon de Badenbourg en Allemagne. Elle a battu la Canadienne Bianca Andreescu en finale en 3-7. Son premier titre depuis plus de 3 ans, depuis 2019. Caroline Garcia que l'on retrouvera à Wimbledon à partir de lundi. Tournoi du Grand Chelem à suivre sur RMC. Évidemment, on suit également de direct les championnats de France d'athlétisme à Caen avec Valentin Jamin et puis les championnats du monde de natation à Budapest avec Julien Richard. On va y retourner dans un instant puisqu'à 18h17, on suivra le départ notamment du 1500 mètres nage libre messieurs avec Damien Joly. Le rendez-vous athlé important, c'est 18h20, le 800 mètres donc des championnats de France avec, on vous le disait, pas mal de densité. Gabriel Tual, Pierre-Ambroise Boss ou encore Benjamin Robert qui est quatrième meilleur performeur de la saison. Mais on va revenir sur le rugby et cette saison magnifique de Top 14 qui s'est achevée hier avec nos deux spécialistes, évidemment. La voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut Benoît, bonsoir à toutes et à tous.
Et l'autre voix du rugby, et si, le vrai Montpelliérain de cette rédaction, Julien Landry. Salut Payot.
Salut Benoît, salut à tous.
Et oui, Julien qui avait commenté la demi-finale de Montpellier avec cette qualification donc pour la troisième finale de l'histoire du MHR. La finale qui a été la bonne. Du coup, mon petit Wilfried Templier, tu as commenté cette partie. Un scénario auquel on s'attendait pas, hein, Wilfried d'ailleurs.
Ouais, une entame tonitruante, on va dire. Hein. Je pense que moi, c'est la première fois depuis la création du Top 14 en 2004 qu'on voit ce genre de scénario. 17-0, 3 essais à 0 en 12 minutes seulement. 20-0 quelques minutes plus tard. Franchement, Montpellier a mis une accélération vraiment foudroyante. Et puis à chaque fois, c'est quand on pense au contre-pied de Boutier qui fait reculer Castres de 80 mètres avec ce premier essai signé Arthur Vincent suite à un coup de pied rasant génial de Zach Mercer. Après, il y a des balles prises en touche au Castré, des réalisations fantastiques en plus, hein, des essais aussi beaux les uns que les autres. Celui de Boutier servi par Arthur Vincent qui rentre à l'intérieur, un passe aveugle comme ça. Magnifique, franchement il y a eu des choses magnifiques, tout a réussi à Montpellier en fait. Il y a eu 20 minutes de rêve pour les Montpelliérains. Aucune équipe n'a fait une entame comme ça en finale Top 14. C'est arrivé à eux et on avait le sentiment qu'ils ne pouvaient rien rater hier soir. Alors écoute, Paolo Garbici, l'international italien depuis l'ouverture de cette équipe de Montpellier, ils avaient vraiment envie, les Montpelliérains.
On sait que Castres, il faut les surprendre pour l'envie que tu mets dès le début. Eux, ils avaient déjà gagné, nous on n'avait jamais gagné. Du coup, c'était impossible qu'ils avaient avait plus envie que nous. Et après, on savait par contre qu'il lâche jamais. Mais après, on est réussi à tenir. Et voilà, et maintenant, c'est super. Quoi.
Voilà, Garbi, c'est au micro de nos confrères de Canal+, Wilfried.
Ouais, Philippe Saint-André disait j'avais les affamés. Voilà, on en discutait un peu la veille du match, au moment des conférences de presse. Bon, Julien va certainement le développer, ça, le fait qu'ils sont revenus de très loin, revenus
pour faire le Montpellier.
Il y a une histoire de faim dans le rugby, hein, d'appétit, voilà, de celui qui en veut le plus. Hier soir, voilà, c'était Montpellier qui en voulait le plus et ça s'est largement vu, quoi.
Exactement. Alors les gars, on va parler également du grand battu, notamment avec toi Wilfried, le Castres Olympique, donc grand perdant de cette finale. Si tout s'est bien passé pour Montpellier, c'est tout l'inverse pour le Castres Olympique, qui a déjà connu deux titres de champion de France, mais qui est passé complètement à côté hier soir.
Un cauchemar, dirait Denis Charvet. Franchement, il l'a dit dans le match hier.
Ouais.
Tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, ouais. Les pauvres castrés qui étaient si souvent décontractés, outsiders. C'est peut-être ce qui a changé aussi, hein, puisqu'ils étaient premiers de la saison régulière quand ils ont eu leur titre en 2013 et en 2018. Là, ballon perdu, touche égaré, les coups de pied improbables, le coup de pied de Geoffrey Palis qui donne l'essai sur un plateau quasiment à Montpellier en début de match. C'est du jamais vu, quoi. Il y a eu la blessure de Benjamin Orda Pileta, ils courent après le score, ils voient leur stratège qui sort comme ça sur blessure. Alors c'était le soir de Montpellier, c'était pas celui de Castres qui avait craqué une seule fois comme ça cette saison. C'était à l'automne face au Stade Toulousain à Toulouse, une défaite 41-0. Ils étaient menés 20-0 à la pause, un peu comme hier soir, hein, l'écart qu'il y avait à la pause 23-3 en faveur de Montpellier. On n'a pas reconnu le Castres Olympique et le capitaine Mathieu Babiot était très lucide sur cette entame de match.
On partait de beaucoup trop loin, il faut commencer par là. On fait une entame de match qui est catastrophique, franchement. Trop de déchets au niveau des passes, au niveau du jeu au pied. Et puis derrière, on s'est fait contrer, on a pris un essai. On en reprend un autre dans la foulée. Donc on s'accroche avec nos valeurs et notre état d'esprit. Mais à ce niveau-là de compétition, sur une équipe qui lâche rien, qui est bien en place, c'est forcément très compliqué.
Alors c'est dur pour Castres en fait, parce qu'ils font leur meilleure saison pour la première fois de l'histoire. Ils terminent premier du top 14 avec 17 victoires dans la saison, hein. Personne n'a fait mieux cette année en top 14, a vaincu à domicile et ils avaient réussi à remonter. Ils étaient menés 10-0 contre le Stade Toulousain, ils avaient réussi à remonter en demi-finale et à battre les tenants du titre. Et voilà, patatras hier soir. Mais on l'a vu, ils auraient pu jouer toute la nuit, ils marquaient pas, hein, parce que enfin ils ont marqué. Si, ils ont marqué un essai avec Botitou à 5 minutes de la fin, mais en début de deuxième mi-temps, ils ont deux essais refusés. Voilà, c'est pas votre soir. La finale.
Tu sentais que il pouvait rien arriver à Montpellier, quoi, c'est sûr.
Non, la finale du top 14, il y a une dramaturgie, il y a quelque chose comme ça, quelque chose de magique, et voilà, quand vous êtes dans l'autre camp, c'est dur.
Exactement. Alors, dans un instant, on va revenir sur l'exploit réalisé par le MHR. D'où revient cette équipe? C'est complètement hallucinant. Ils ont frôlé la relégation l'an passé, il y a un an, quasiment jour pour jour. On va en parler avec Julien Landry, mais un petit détour tout de même par Caen, les championnats de France d'athlétisme, avec les séries du 110 mètres haies, et Sacha Zoya qui fait le boulot. Du coup, Valentin Jamin.
Énorme chrono de Sacha Zoya, 13-24, minima en poche pour les championnats
magnifique.
Du monde cet été, claqué par Sacha Zoya qui a écrasé la concurrence sur cette série et qui donc, eh bien, on en parlait tout à l'heure, rejoint jusqu'au Oumate pour Eugene cet été. Magnifique série, hein, de Sacha Zoya qui a vraiment mis une grosse claque à la concurrence. 13-24, le temps pour la jeune pépite française qu'on annonce comme le futur, mais qui est vraiment déjà le présent de l'athlète français. Et ce ne sont que les séries, rendez-vous pour les finales tout à l'heure.
Exactement, merci Valentin, à tout à l'heure pour la suite des championnats de France d'athlée. Un petit détour également par Budapest, Julien Richard, le 1500 mètres qui va partir d'ici quelques secondes, présentation des nageurs, hein, Julien, pour l'instant.
Exactement, présentation des nageurs, c'est assez bien fait d'ailleurs cette présentation avec un Français. Ouais, il y a des petites vidéos des nageurs qui font des... Un petit signe à la caméra, c'est voilà, on essaie de moderniser un peu l'image de ce sport. On y va par petites touches quand même, hein. C'est pas non plus Las Vegas, mais écoute, c'est sympa, ça change un petit peu cette présentation avec donc un Français, Damien. Non, on est à Budapest, c'est pas faux. Damien Joly, donc ligne de numéro 2, le Français de 30 ans, hein, c'est un ancien de cette équipe qui a réalisé le cinquième temps des séries. C'était hier matin, hein, les séries sont la veille sur le 1500, c'est la plus longue distance en bassin et c'est une distance où l'on retrouve vraiment des grands spécialistes et les meilleurs du monde tout simplement pour cette finale, puisqu'on aura donc à la ligne d'eau numéro 4 Florian Welbrock, l'Allemand, meilleur temps donc. Il a gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo sur cette distance. Il est champion olympique du 10 km et il a terminé ici à Budapest deuxième du 800 mètres derrière le grand favori Bobby Fink, l'Américain, ligne d'eau numéro 3, donc le champion olympique du 1500 et qui a gagné le 800 mètres ici. Et puis attention à Mikhailo Romanchuk, l'Ukrainien. ukrainien, vice-champion olympique du 1500, troisième ici sur le 800 mètres. Ses parents ont fait le déplacement. Je vois des drapeaux ukrainiens dans les tribunes. Pour la première fois, il les revoit depuis le début du conflit. Donc voilà, c'est chargé d'émotions, il le disait. Et notamment son père qui se bat et qui est avec l'armée ukrainienne dans ce conflit. Et lui, il a trouvé refuge en Allemagne où il s'entraîne et où il a pu préparer ses championnats du monde.
Bon, 1500 mètres, ça dure un peu moins d'un quart d'heure. Donc c'est parti, on suivra Damien Joly. On revient rapidement, évidemment, te voir. Julien Richard, continuons de parler du rugby et cette épopée complètement folle du MHR. Monsieur Julien Landry, si on t'avait dit au début de saison Montpellier va être sacré champion de France de rugby, t'aurais mis une pièce ou pas, Julien ?
Alors non, pas une pièce, parce que champion de France, il y a la concurrence est tellement rude. Mais les Montpelliérains, dès le stage de pré-saison, alors ils ont démarré très tôt, les Montpelliérains, vu que la saison s'est arrêtée plus tôt, pas de phase finale, ils ont repris dès le 1er juillet. Philippe Stendré les a emmenés en Corse au début du mois d'août, et lorsqu'il a fait les réunions des leaders au tout début du mois d'août, il leur a demandé quels sont les objectifs pour cette saison, et les joueurs Guirado, Payog, Ouedraogo ont dit on veut finir dans le top 4. Donc ça avait été annoncé très très tôt dans la saison, et lors du premier point presse avec Guirado, on lui avait demandé nous aussi les ambitions. Il avait dit notre objectif, et à mot caché un peu, il avait laissé entendre que les Montpelliérains voulaient faire un top 4, ce qui paraissait surprenant vu d'où ils venaient, finalement. Mais voilà, ils ont beaucoup parlé de cette saison, la saison dernière, où ils se sont forgés un vrai mental, une vraie solidarité de groupe, parce qu'ils en ont bavé. Fulgence Ouedraogo et Benoît Payog, qui sont là depuis quasiment 15 ans, ont vécu la pire saison de leur histoire au sein du club. Ils ont dit on a bouffé de la merde, et si on n'était pas solidaires entre nous, on aurait pu descendre en pro des deux. Et ils se sont créés un vrai groupe, une vraie bande de potes, et il y a quelque chose qui est né la saison dernière dans la dureté, dans ce sauvetage face à Bayonne à la 25e journée, où ils étaient 13e au mois de février. Ils ont gagné le challenge européen, ils ont créé une dynamique. Il y a eu des joueurs qui sont venus renforcer l'effectif à l'intersaison. On en parlera sûrement de Zach Mercer qui va sûrement prétendre au meilleur joueur de la saison en top 14, parce que il est tout simplement époustouflant. Voilà, il y a eu un savant mélange, un très bon recrutement, une très bonne osmose entre tous les joueurs. Et c'est vrai que on a senti une force, et ça fait longtemps, on avait parlé avec Wilfried, que cette équipe-là dégageait une force depuis déjà Nice la semaine dernière. Il y avait quelque chose qui se passait autour de ce groupe-là. Une défense infranchissable, parce qu'on l'a vu hier soir, mais déjà contre Bordeaux, ils n'avaient pas été franchis une seule fois par les Bordelots. Et là, pareil. Et alors après, c'est vrai que pour les observateurs, voir les Montpelliérains jouer de cette manière-là pendant 20 minutes, ça a pu surprendre du monde. Mais faut pas oublier que Montpellier avait passé 31 points en un quart d'heure au Harlequins, en huitième de finale de Coupe d'Europe à Montpellier. Et de la 20e à la 40e, ils ont fait ce qu'ils ont fait hier soir. Ils avaient joué tous les ballons de récup, et ils avaient planté 5 essais aux champions d'Angleterre en titre en à peine 20 minutes. Donc cette équipe-là avait le potentiel de faire ça. Ils l'ont souvent caché et ils l'ont sorti au meilleur des moments.
Julien, un mot avec toi, parce que tu suis les clubs de Montpellier depuis des années et des années. Tu as suivi au plus près ce titre de champion de France de foot en 2012, la génération Olivier Giroud, René Girard, Rémi Cabella et compagnie. Est-ce que l'émotion est la même à Montpellier ? Est-ce que tu sens le même engouement ? Il y a rendez-vous place de la Comédie d'ici quelques minutes. Il y aura ensuite une cérémonie au GGL Stadium. C'est du même niveau, alors, ou c'est un peu inférieur quand même ? C'est pas comparable.
Alors, non, c'est un peu inférieur. Alors, pour le coup, hier soir, il y avait beaucoup de monde à la Comédie. Ils étaient près de 5000 supporters montpelliérains. Parce que, il y a de nouveau une identification autour de ce club-là, une attache auprès de cette équipe-là. Je me rappelle qu'en 2018, la finale, entre Montpellier et Castres, l'écran géant a été installé devant la nouvelle mairie, et il y avait à peine 600 spectateurs qui s'étaient déplacés pour voir le match sur l'écran géant. Et pour la finale de 2011, la première, il y avait quasiment 10 000 supporters. Donc, tu vois que 2011, il y avait la nouveauté, le groupe de Galtier, cette jeune équipe à laquelle on s'identifie. Il y a eu le naufrage et la catastrophe Jack White qui est passé par là, où les Montpelliérains ne se sont plus identifiés à ce club-là. Philippe Saint-André est arrivé au club pour redonner une belle image. Il est en train de réussir sa mission. Ils étaient 5000 hier soir, et on en a parlé beaucoup toute la journée à Montpellier. Ils seront encore très nombreux ce soir, encore plus nombreux au stade. Voilà, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se repasser autour de cette équipe-là. Et alors évidemment, tu peux pas. Le foot, ça restera toujours au-dessus.
Bien sûr.
Mais hier soir, pour le coup, il y avait une vraie fête à Montpellier. Montpellier et un vrai sentiment d'appartenance autour de cette équipe-là. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu ça du côté de Montpellier sur un des sports majeurs, en tout cas de la ville montpelliéraine.
Et c'était une des belles images, effectivement, de cette année sportive, le sacre de Montpellier, troisième finale, ça a été la bonne, le premier titre de champion de France de rugby. Merci Julien d'avoir été avec nous. Bonne soirée à toi.
Merci à vous.
Wilfried, tu restes. On va justement faire le bilan de cette saison de Top 14. Mais on a des directs qui vont s'enchaîner. D'ailleurs, d'abord un premier point par la natation, championnat du monde à Budapest, évidemment, et ce 1500 mètres où on est Damien Joly, Julien Richard.
Assez dur, hein. C'est très dur pour le Français. D'entrée, il a été décroché. Damien Joly, c'est parti très vite. Et notamment la ligne d'eau juste à côté de lui, l'Italien Gregorio Paltrinieri, qui est le deuxième performeur de l'histoire, champion olympique à Rio, mais qui était un peu en dedans. On le pensait hors de forme. Bah, il tente le tout pour le tout. Et Damien Joly, lui, il se bat à la 8e place. Décroché, ça va être compliqué, cette finale jusqu'au bout. Ça va être long, fin de la suite de cette course pour le Français.
Un événement athlétisme, c'est la course que l'on attend aujourd'hui à 18h20 sur RMC, championnat de France d'athlé, donc à Caen. Et ce 800 mètres, Valentin Jamin avec trois hommes qui devraient se tirer la bourre. Pierre-Ambroise Boss, évidemment la légende de cette équipe. Benjamin Robert, quatrième meilleur performeur au monde cette saison. Et puis Gabriel Tual qui lui aussi est candidat et qualifié pour Eugene, les championnats du monde. Ça va partir d'ici quelques secondes, Valentin. Hein.
Ça part même à l'instant. Le double tour de piste, effectivement une course très attendue aujourd'hui avec une densité très importante. On a 7 garçons sur les 8 qui sont passés sous la barre des 1,46. C'est vraiment quelque chose de fort pour des coureurs de 800 mètres. On a 7 garçons aussi qui ont fait les minima pour participer au championnat d'Europe. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de concurrence. Tu as cité effectivement Benoît, Pierre-Ambroise Boss, peut-être bien le plus connu de tous, le plus célèbre champion du monde 2017, 4e des JO 2016, qu'on a aussi beaucoup vu, eh bien, grâce à ses interviews, un garçon un petit peu rigolo qui a vécu des moments un peu plus difficiles sur la piste mais qui revient bien et qui était le week-end dernier à Charletti lors d'une course de folie sur le 800 mètres où il a réussi à terminer 6e et à faire les minima pour les mondiaux cet été avec deux autres garçons, Gabriel Tual, alors qu'ils vont arriver bientôt dans le dernier tour et que tout le monde est très groupé. Gabriel Tual qui a aussi fait les minima et qui a fait un gros temps à Paris, et donc Benjamin Robert, double champion de France en titre et grand favori pour ce double tour de piste. Il a fait cette saison 1,43,75, c'était la semaine dernière. Pour l'instant, la course allait être emmenée par Pierre-Ambroise.
Eh oui, c'est Boss. Ça qui est dingue, c'est que c'est Boss qui emmène la course. Pour l'instant, on est rentré dans le
c'est
dernier
Boss
tour.
Boss qui est en train d'emmener la course, effectivement. Il va rester un petit peu plus maintenant de 300 mètres, alors que Gabriel Tual est en train un petit peu de coincer Benjamin Robert est derrière, mais il est en train de poursuivre son effort. Lui, format de poche, 1m73 seulement. On sait qu'il a un gros finish. Pierre-Ambroise Boss qui a décidé de partir de très loin. Gabriel Tual qui est en train de s'accrocher. Les trois qui sont en train de se dégager. Mais Pierre-Ambroise Boss a fourni un effort incroyable. Est-ce qu'il va réussir à tenir Pierre-Ambroise Boss, le gros coup. Pierre-Ambroise Boss qui entre dans la dernière ligne droite. Gabriel Tual juste derrière lui. Benjamin Robert qui va le faire au finish. Benjamin Robert qui va l'emporter. Benjamin Robert qui fait le travail. Derrière lui, Benjamin Tual. Attention, Pierre-Ambroise Boss, parce que ça revient pour la troisième place. Est-ce que ça va tenir? Benjamin Robert, champion de France, devant Gabriel Tual. Est-ce que Pierre-Ambroise Boss a préservé son podium? Rien n'est moins sûr, parce que c'est revenu à l'extérieur. Benoît, quelle fin de course! Et on le disait, Benjamin Robert,
incroyable,
rapide et endurant. Ouais. 1,48,58. Rien à voir évidemment avec ce qu'il a fait il y a une semaine, mais quel finish sur les 200 derniers mètres, il est imprenable. Donc Benjamin Robert, champion de France, Gabriel Tual annoncé second et Pierre-Ambroise Boss est bien annoncé troisième en 1,49,17. On voulait du spectacle, on l'a eu sur ce 800 mètres basculant.
Et ça devient une signature, hein. Benjamin Robert avec ses finishes impressionnants, il avait remporté le meeting de Paris de Ligue de Diamant la semaine dernière à Charletti. Il récidive, il est sacré champion de France du 800 mètres devant Gabriel Tual. On verra effectivement si Pierre-Ambroise Boss est sur le podium de ces championnats de France. En tout cas,
ça se joue au millième, hein, pour le podium.
Ça se joue vraiment à rien, effectivement. Donc tu nous donneras le résultat complet dans un instant. Petit détour nouveau par la natation, Budapest, le 1500, le 1500 mètres, messieurs, nage libre. Julien Richard, où en est-on?
Alors on a passé les 950 mètres de course, hein. On va arriver aux 950 mètres, pardon, il va rester un peu moins de 500 mètres à parcourir. Et c'est toujours l'Italien Gregorio Paltrinieri qui fait un truc incroyable. Il est parti hyper fort et maintient son avance. Il a trois longues avances et il est complètement excentré à la ligne d'eau numéro 1. Donc un peu loin de la bataille du milieu où sont censés se trouver les meilleurs après les séries. Mais il la joue à l'italienne. Là, clairement, c'est vraiment un bluffeur, Paltrinieri. Et il le prouve une nouvelle fois, ce qu'il va tenir. Ça sera l'enjeu des 500 derniers mètres pour Damien Joly. L'enjeu, bah, ce sera essayer de terminer comme il le peut, mais il est loin, il est très loin, Damien Joly, il est 8e et il est surtout loin aussi de ses temps de passage de son record personnel. C'est une finale qui se passe mal pour le Français.
Et ouais, bah, on n'était pas persuadé qu'il allait y avoir un podium pour lui. Malheureusement, ça s'éloigne fortement donc pour Damien Joly sur ce 1500 mètres masculin. 18h30 sur RMC, l'Intégral Sport revient dans un instant. On poursuit notre bilan de la saison de Top 14. On retourne au championnat de France d'athlétisme et on retourne également au championnat du monde de natation. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
L'Intégral Sport jusqu'à 20h sur RMC, évidemment, avec dans un quart d'heure une invitée. C'est Audrey Cordon-Ragot, championne de France de cyclisme. Elle a remporté la course en ligne 2 jours après avoir remporté le contre-la-montre. Donc un doublé historique pour elle. Elle sera avec nous en compagnie de Pierre-Yves Leroux. En natation, on se dirige vers un record du monde sur le 1500 mètres. Julien Richard au championnat du monde de Budapest.
Ah, c'est incroyable ce qui se passe dans cette piscine de Budapest avec Gregorio Paltrinieri à 25 mètres, peut-être de faire tomber un record du monde qui appartient à un certain Sun Yang. Ah, on aimerait bien ne plus voir sur les tablettes celui-là, le chinois qui avait été pris pour dopage, qui avait explosé avec un marteau ses échantillons lors d'un contrôle antidopage. Les derniers mètres pour Paltrinieri, l'Italien maintenant, et on va surveiller le chrono. 14 minutes 32 secondes et 80 centièmes. Il échoue à battre ce record du monde. C'est fou parce qu'il avait 3 secondes d'avance à 200 mètres.
Ah, il a explosé à la fin, ouais.
Et il a complètement explosé, ouais. Mais il a fait une course incroyable, un peu suicide parce qu'il est parti comme un dingue alors qu'on le pensait hors de forme. Il monte sur la ligne, il fait le show évidemment, alors que Damien Joly pendant ce temps-là, il est en train de t'en terminer dans la ligne d'à côté, juste à côté de Paltrinieri. Elle est terrible cette image. Paltrinieri célèbre, monte sur la ligne, il va presque tomber dans la ligne de Damien Joly qui lui va en terminer très loin, très très loin pour le français Damien Joly, et qui va terminer surtout très 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 loin de son record. Ah, c'est incroyable, 15-09, c'est une grosse grosse contre-performance.
Ah oui, il est loin.
Pour le français, son record personnel c'est 14 minutes 48 secondes hein, donc bon. Il est à plus de 10 secondes de son record. Damien Joly, victoire de Gregorio Paltrinieri, record des championnats, mais pas de record du monde. Sun Yang reste sur les tablettes du 1500.
Bon, on est encore avec Wilfried Templier qui est resté la voix du rugby sur RMC. On voulait débriefer un petit peu cette saison de Top 14 qui s'est achevée hier avec le titre de Montpellier. On en parlait. Donc Wilfried, faisons le bilan de cette saison et démarrons par dire que finalement, les phases finales sont parfois critiquées parce qu'on se dit que le 6e peut être champion de France en rugby. C'est plus vraiment le cas depuis 3 saisons puisque les 2 premiers qui sont qualifiés directement pour les demi, bah, se retrouvent en finale systématiquement.
Effectivement, depuis 2000, il y a eu 2019, 2020 avec le Covid, on n'a pas eu de finale, 2021 et 2022, 2019 Toulouse-Clermont, 2021 Toulouse-La Rochelle, 2022 Castres-Montpellier, les deux premiers à chaque fois au classement, et on se rend compte qu'après les saisons harassantes, le week-end de repos, la semaine de repos qu'il y a pendant que les autres s'affrontent en barrage, eh bien, sont très importantes pour les demi-finalistes. On a vu plus de fraîcheur pour Castres face à Toulouse, plus de fraîcheur aussi pour Montpellier face à Bordeaux, donc c'est un vrai avantage, mais il faut aussi être compétitif toute l'année pour ça, c'est-à-dire performer. Et c'est vrai que on se rend compte que les clubs qui ont pas mal d'internationaux, que ce soit Bordeaux, que ce soit La Rochelle, que ce soit Toulouse, eh bien ils y ont laissé des plumes. La France a fait une tournée d'automne fantastique avec une victoire en point d'or contre les All Blacks, a fait le grand chelem cet hiver, mais ces joueurs ont manqué à leur club avec les doublons, puisqu'on est le seul sport à ma connaissance, Benoît, dis-moi si je me trompe, où l'équipe de France joue en même temps que les clubs. Il y a des week-ends où il y a le championnat et l'équipe de France. Donc, en plus, il y a eu un grand chelem. En plus, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Voilà, c'est limite inquiétant pour les clubs qui sont pourvoyeurs, grands pourvoyeurs internationaux. Hein.
On avait dit, est-ce que la stratégie Castres n'est pas la bonne d'avoir une bonne ossature, mais pas des joueurs qui intègrent l'équipe c'est de vrai. France. Comme ça, ils ont tout leur effectif tout au long de la saison. Ouais, c'est vrai.
Surtout, dans l'année prochaine, on sera en route vers la Coupe du Monde en France. Et même on peut rajouter celle après la Coupe du Monde, parce que s'il y a une décompression derrière pour les internationaux après la Coupe du Monde, voilà, ça peut être dangereux pour les clubs pourvoyeurs internationaux. Bon, on verra si ça se répète l'année prochaine, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
Et puis je reçois un message de notre collègue et ami Pierre-Yves Leroux qui sera avec nous dans quelques secondes, qui me dit c'est vrai que la fraîcheur c'est pas la spécialité de Wilfried Templier.
On peut pas enquêter sur les nuits des champions comme ça et être fraîcheur, être frais après le soir.
Alors ce qu'on retient aussi de cette saison, sera le mot de la fin Wilfried, et on va te laisser te reposer après, c'est que c'est la fin aussi, cette fin de saison marque la fin de carrière pour toute une génération Je pense évidemment à Guillaume Guirado, Fulgence Ouédraogo qui eux partent sur un titre de champion de France. On peut également penser à Louis Picamol, à François Trinduc, toute une génération d'internationaux français qui tirent leur révérence bien là en ce mois de juin. Hein.
Effectivement, il y en a beaucoup qui avaient été champions du monde U20 en 2006. Est-ce que tu peux rajouter Loïc Jacquet? Donc il y avait Médard, Maxime Médard, avec Guillaume Guirado. Ouais, donc tu dis Médard, Guirado, Ouédraogo. Alors même quelques étrangers. Hein. Enfin, avant Chouli, Burban, Jacquet, des figures, un Trinduc de notre championnat, Picamol. Et tu peux rajouter Rory Cocotte, Joe Tecori, Victor Vito, néo-zélandais. Beaucoup de monde tire sa révérence. C'est vrai que des grandes figures. Bah c'est la vie, hein, Benoît.
Oui, c'est la vie.
On est tous poussés un jour vers la sortie. Il faudra qu'on en parle tous les deux. mais c'est comme ça. Mais voilà, s'il y a toujours un peu de voilà d'émotion, il y en avait beaucoup hier soir, Benoît, avec Ouédraogo, avec Guirado. Tu te rends compte, Guirado, il fait comme Wilkinson en 2014. Il s'en va sur un bouclier au Stade de France et lui en le soulevant comme ça avec Ouédraogo qui n'était pas dans le groupe.
Non mais
l'emblème qui soulève le bouclier, c'est génial.
Cette anecdote incroyable, Guillaume Guirado qui sort sur commotion en début de seconde période.
Oui.
Qui va au vestiaire, qui comprend qu'il n'entrera plus et qui appelle ses potes de toujours, Mathieu Bastaro et Nicolas Mas, dans le vestiaire.
Il reçoit même un coup de fil. Hein,
alors que la finale n'est pas terminée, lui, il est au téléphone avec ses potes pour dire
FaceTime de Nicolas Mas, coup de fil de Bastaro qui était dans les tribunes.
Incroyable.
Et qui lui disent retourne, parce qu'il était fou, quoi. Parce qu'il a dit que c'est un peu mal passé avec le médecin. Hein. Donc c'est la santé des joueurs, c'est un médecin indépendant, il décide que vous ne rentrez pas, que vous ne répondez pas au protocole commotion, vous ne rentrez pas. Mais lui, c'est son dernier match. Ah. Il a commencé à lui dire oh mon petit gars, j'ai un dernier match à jouer. Et donc, il était au fond du seau. Et ses potes lui ont dit, retourne auprès de tes mecs, ils sont en train de gagner, t'as besoin d'être avec eux, vas-y, c'est important. Et il nous a dit, heureusement que j'étais champion quand même.
Ah ouais. Parce que entre les adieux ratés à Perpignan où il était, il y a eu ce couac avec Philippe Saint-André, où il n'y a pas eu d'ovation, et puis là, cette sortie sur commotion, c'est vrai que ça aurait fait beaucoup
L'histoire finit bien, on le voit ralenti, on lui a dit, il tape sur le bouclier, il embrasse le bouclier, il le soulève. Belle image. On l'a souvent vu, les épaules basses avec l'équipe de France. On est très content pour cet homme-là qui est en plus une personne charmante.
Bien sûr. Merci Wilfried. Repose-toi bien, on te retrouve rapidement évidemment pour parler du rugby sur RMC. On rappelle l'actualité chaude, c'est cette tournée qui va démarrer, tournée au Japon pour l'équipe de France, hein, Wilfried d'ailleurs. Rappelle-nous
les dates. Le prochain samedi, le matin. C'est deux prochains samedis pour l'équipe de France au Japon.
Merci Wilfried.
Une facture au commentaire.
Allez, salut.
Voilà.
Bonne soirée.
Allez.
Et repose-toi bien, fais de la fraîcheur.
Ciao.
Merci.
Ciao.
18h41, dans un instant, on revient. On va parler du cyclisme justement avec Pierre-Yves Leroux. On va accueillir une championne de France, double championne de France, Audrey Cordon-Ragot, qui sera en direct avec nous. On va se projeté sur la course masculine de demain et le grand retour à la compétition de Julien Alaphilippe, puis on retournera à Caen pour les championnats de France d'athlée et à Budapest pour les championnats du monde de natation. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport, Benoît Boutron.
18h44 sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 20h. Évidemment, on vous rappelle que dans un quart d'heure, on va vous présenter ce match 5 de la finale du championnat de France de basket entre l'ASVEL et Monaco. Le champion de France sera désigné à l'issue de ce match. C'est à l'Ostrobal que ça va se passer. On sera en direct avec Stephen Brun, Jérémy Donzé et notre invité Ali Traoré. 56 sélections en équipe de France et 2 titres de champion de France avec l'ASVEL. 18h45, on retourne à Cholet retrouver Pierre-Yves Leroux. Salut Pierre-Yves.
Bonjour Benoît.
Quelle chambre, Pierre-Yves. Bon, Pierre-Yves, évidemment, tu passes le week-end à Cholet hein, pour les championnats de France de cyclisme. On a vécu les deux contre la montre. On a vécu la course en ligne féminine. Et incroyable doublé pour, évidemment, Audrey Cordon-Ragot qui a remporté le chrono jeudi et qui a remporté la course en ligne aujourd'hui. C'est complètement dingue ce qu'elle a réalisé.
Alors que au printemps, elle était au fond du trou. Hein. Elle disait il y a une équipe de télé qui est venue me suivre dans le Ventoux. J'étais vraiment incapable. J'étais collé à la route, quoi. Et à un moment, elle se disait mais c'est pas la peine, quoi. C'est même pas la peine de venir au championnat de France. Je vais pas réussir à suivre les Juliette Labousse, les Aude Bianic et compagnie. Et puis finalement, elle s'impose sur le contre-la-montre. Donc déjà, elle avait lâché toutes ses galères après la ligne. Elle avait pleuré tout ce qu'elle pouvait. Et puis là, elle a joué vraiment à l'expérience de façon très intelligente, en se retrouvant à deux sur le final. Voilà. Et puis finalement, elle s'impose assez facilement au sprint avec, c'est ce qu'elle disait, quand vous avez déjà gagné, puisque c'est sa deuxième victoire, bien c'est plus facile finalement d'aller
moins de pression,
rechercher une victoire, et elle rentre dans un beau
un cercle
catalogue.
Fermé
et voilà, cercle fermé, puisqu'il n'y a que Jeannie Longo qui elle doit avoir 6 titres je crois, et puis Pauline Ferrand-Prévot qui a gagné 2 fois aussi.
En 2014. Et tu sais quoi? Elle est en direct avec nous. Donc la championne de France, double championne de France de cyclisme, Audrey Cordon-Rago. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Félicitations. Quel week-end pour vous, tout de même, hein, cette victoire sur le contre-la-montre et la victoire sur la course en ligne aujourd'hui. Mission accomplie, là. C'est vrai que Pierre-Yves l'a dit, vous avez eu des moments compliqués en début d'année. Et là, vous êtes récompensée de vos efforts, Audrey.
Ouais, c'est vraiment le résultat de l'abnégation, là. Depuis le Covid, depuis que j'ai été malade et que j'ai eu du mal à récupérer, à retrouver des sensations, c'est vrai que ça a été compliqué, voilà, de partir à l'entraînement et de se sentir mal, de jamais voir de progression, et puis on continue quand même à y aller, on continue à se faire mal aux jambes, et puis le résultat il est aujourd'hui, et c'est énormément de satisfaction, beaucoup de bonheur et de fierté.
C'est vrai ce qu'a dit Pierre-Yves, on vous a senti relâché même dans votre stratégie de course, c'est peut-être ce maillot tricolore décroché sur le contre-la-montre qui vous a permis d'avoir cette stratégie, puisque vous avez été aux avant-postes dès le début de la journée, c'était des boucles de 20 km que vous avez couvert 6 fois, on vous a vu à l'offensive, et d'ailleurs on s'est tous dit peut-être que la course va terminer au sprint, eh bien non, vous avez terminé à 2, vous battez au sprint votre concurrente principale qui était Gladys Verlust, mais finalement vous étiez relâché pour cette journée si importante.
Ouais, complètement. J'ai pris le départ avec beaucoup de relâchement. Je savais que mes chances de gagner étaient quand même minces. Hein. Quand on est seul au départ, quand on n'a pas de coéquipière, c'est vrai qu'il faut jouer tactique et pas faire d'erreur. Et il fallait faire la course parfaite aujourd'hui pour s'imposer. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. L'expérience a sûrement aidé, c'est sûr. Mais j'avais surtout ce relâchement. Et puis, garder la tête froide, c'était surtout ça qu'il fallait faire aujourd'hui. Et ouais, c'est chose faite. C'est vrai que c'est un bel accomplissement.
Audrey, la récompense ultime, c'est de porter le maillot tricolore sur le Tour de France féminin. Ça, c'est magnifique quand même.
Ouais, c'était vraiment mon rêve. Hein. C'est vrai que c'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai rêvé depuis que je sais que le Tour va avoir lieu pour nous les femmes. Et je l'ai répété à plusieurs reprises dans les médias que je me concentrais d'abord sur ce championnat de France parce que l'objectif c'était évidemment de porter le maillot tricolore sur le Tour et Ça va être chose faite. C'est assez énorme. Je pense que je réalise pas trop, en fait.
Pierre-Yves, on rappelle, Tour de France féminin qui revient donc cette année 2022 à suivre dès le 24 juillet. C'est sur une semaine, hein, du 24 au 31 juillet, avec une première étape dans Paris. Hein, départ de Paris en dessous de la Tour Eiffel, arrivée aux Champs-Élysées. C'est magnifique, ça, Pierre-Yves.
Non, mais c'est vrai que ça va être un événement. Audrey le disait tout à l'heure. Alors, je serais peut-être pas une star, mais forcément, avec ce maillot de championne de France, tout le monde va me reconnaître. Ça va être un véritable événement populaire. Il va y avoir du monde sur toutes les étapes. Forcément, c'est le retour d'une grande, grande épreuve. Donc, elle va pouvoir en profiter. Et puis, elle nous a dit tout à l'heure, après, ça sera les Jeux Olympiques pour terminer. Ça, ce serait bien pour terminer une carrière. Et puis, je pense que derrière, il n'y aura pas de souci pour Audrey, pour avoir du boulot aussi et pour parler de vélo pendant un moment.
Bien sûr. Audrey, donc Cordon-Rago, championne de France de cyclisme, qui a remporté la course cet après-midi, qui est en direct dans l'Intégral Sport sur RMC. Audrey, parlez-nous de l'engouement populaire qu'il y a sur ces championnats de France et plus globalement autour du cyclisme féminin. Il y a un vrai renouveau dans le cyclisme féminin français. On a réintégré le top 10 de l'UCI. On revient un petit peu dans la roue des grandes nations de cyclisme, notamment les Pays-Bas. C'est de bon augure en vue de 2024, tout ça. La dynamique est bonne, en tout cas.
Oui, complètement. C'est vrai qu'on a une génération montante là de jeunes femmes prometteuses qui poussent le curseur encore plus haut, et c'est ce qui me motive aussi à m'entraîner toujours plus dur et à essayer de, comme elles, monter sur les podiums au niveau international. Et oui, j'ai vraiment bon espoir qu'en 2024, on ait une fille sur le podium pour glaner une médaille olympique. D'ici là, il y a encore du travail, il y a encore des médailles à aller chercher sur les championnats du monde, les championnats d'Europe. Mais c'est vrai qu'on peut vraiment considérer que le cyclisme féminin français est en bonne santé et qu'il est juste aux prémices de ce qu'il va devenir dans les années qui arrivent. Et je suis assez fière de faire partie de ça.
Et puis il y a la démocratisation des grandes courses féminines aussi. On le disait, il y a le Tour de France. Et tu me disais tout à l'heure, Pierre-Yves, il y a des classiques qui vont s'y mettre aussi aux courses féminines, hein, Pierre-Yves.
Oui, il y a un projet de Milan-San Remo, Audrey, je crois, qui pour l'année prochaine. Et ouais, je crois qu'on est à 110 jours de course World Tour aujourd'hui. Donc ça, il y a un vrai calendrier qui est en train de se mettre en place dans les équipes. Ça se structure aussi. Donc vraiment, il y a un bel avenir qui est promis là au cyclisme féminin dans les années à venir.
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'on devrait voir encore des étapes de franchie dans les mois qui arrivent. Et le Tour de France fait partie de ces événements qui vont nous faire franchir encore un cap. Et dans la professionnalisation, dans la possibilité pour les femmes d'en faire leur métier. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. On avait vraiment besoin de ce tour pour passer un cap. On a eu Paris-Roubaix aussi qui nous a beaucoup aidés. Donc j'en suis sûre hein, qu'un Milan-San Remo voilà, ces grands monuments masculins auront leur version féminine dans les années qui arrivent parce que c'est la suite logique des choses.
Bien sûr. Et nous, ce qu'on veut, Audrey, c'est vous voir championne olympique en 2024. Hein. Nous, c'est notre prochain objectif. Hein.
Ben, moi aussi. Mais encore, il y a encore un peu de chemin d'ici là. J'aurais pris encore quelques années. Mais a priori, je me bonifie avec le temps. Donc,
ça vient vite, Audrey. 34 ans en 2024, ça vient vite quand même.
Ouais, ça va venir très très vite, c'est vrai.
Bon, super. Merci Audrey, félicitations encore et bien fêtez bien ça évidemment, ce double titre de championne de France sur le contre-la-montre et sur la course en ligne à 18h52 sur RMC. Pierre-Yves, parlons de la course masculine qui aura lieu demain avec cet événement, retour à la compétition pour Julian Alaphilippe, notre champion français évidemment qui avait été victime d'un grave accident malheureusement il y a 63 jours sur le Liège-Bastogne-Liège. Il avait percuté un arbre à 70 km/h. Il revient à la compétition à 6 jours du Tour de France, ça ne veut pas dire qu'il va participer à la grande boucle, mais le voir sur un vélo au départ d'une course officielle, c'est déjà une victoire pour lui. Hein.
Pour lui, et puis c'est vrai pour les amateurs de vélo, parce que voir le champion du monde sur les courses, c'est quand même un petit plus avec sa personnalité.
Bien sûr.
On aimerait que dès demain, il puisse faire un peu le show, mais j'ai quand même quelques doutes, parce qu'on le sent un peu sur la réserve, d'un point de vue assurance, voilà, pour se retrouver des sensations. Il va surtout essayer de retrouver... Voilà, ce qu'il connaît avant, être dans un peloton, ne pas avoir trop peur. Il le disait lui-même, hein, dans certaines descentes, voilà, dans les stages, je sentais que c'était pas comme avant. Donc c'est tout ça qu'il faut qu'il retrouve. Il sera bien là, puisqu'on a reçu il y a quelques minutes la liste officielle des participants.
T'avais peur du Covid, mon petit Pierre-Yves.
En tout cas, voilà, on se demandait un petit peu. Il y a quelques noms hein, qui ont disparu, mais pas dans les favoris. Ils seront exactement 141 au départ demain. Mais Julian Alaphilippe vient trouver, se rassurer. Voilà ce qu'il veut. Et puis derrière, si ça se passe pas trop mal, on peut imaginer qu'il y aura une validation pour le départ sur le Tour de France, parce que ça va venir très très vite. Hein, dès lundi, dernier test. Et puis mardi, tout le monde est dans l'avion vers Copenhague.
Exactement. La ville du vélo, là-bas. Tu vas te régaler, mon petit Pierre-Yves. Tu seras là dans l'équipe, la Dream Team.
Tu vas travailler, tu sais.
Pardon ?
Je vais surtout travailler.
Oui, tu vas travailler.
Avant de me régaler.
Évidemment. Mais bon, c'est un plaisir de travailler, n'est-ce pas, Pierre-Yves?
Bien sûr.
Tu retrouveras toute l'équipe de l'Intégral Tour.
De Cyril Guimard, après, c'est bon.
Ah oui, c'est sûr. Une fois que Cyril est géré, tout va bien. On le retrouvera d'ailleurs en commentaire demain de cette course en ligne, messieurs, les championnats de France, toujours important parce que c'est pour désigner celui qui aura la chance certainement de porter le maillot tricolore sur les routes du Tour de France. Ça démarre vendredi 1er juillet, mon petit Pierre-Yves.
Mais on n'est pas du tout certain que celui qui va porter.
Qu'il soit sur le tour.
Puisque c'est le favori, favori c'est quand même un garçon qui ne sera pas sur le tour, c'est Arnaud Demare. Donc,
voilà, t'as raison.
On n'a pas l'assurance.
On verra en tout cas. Si c'est un autre et qu'il a la chance d'être sur le tour, il sera acclamé pendant des jours. Vas-y.
En complément de ça, elle aurait pu nous le dire tout à l'heure, Audrey Cordon-Rago, puisqu'elle l'a soufflé en conférence de presse. Pour elle, demain, ça n'arrivera pas au sprint, comme aujourd'hui,
pour les féminines,
comme
importante.
Ce matin pour les amateurs. Exactement. Okay. Pour elle, la sélection se fera avant. Et c'est vrai qu'en voyant la course et les courses aujourd'hui, je pense qu'elle a peut-être raison. Ah,
c'est terrible ce que tu me dis, parce que c'est un profil pour Julian, alors.
Ah, mais complètement.
Ouais, c'est ça qui est dommage.
Il manquerait une bosse un tout petit peu plus dure. Et c'est vraiment avec toutes les relances.
Ah, bien sûr. Les
coups de cul, comme on dit.
Bien sûr.
C'est un circuit pour lui.
Un final un peu escarpé comme ça. On rappelle, c'est la même boucle de 20 km. 12 fois, hein, 240 km. J'ai bien retenu ma leçon, Pierre.
Exactement. Mais dans son équipe, même s'ils ne sont que trois, avec un Rémi Cavagna, qui est le champion en titre, et Florian Sénéchal, attention à eux quand même.
Et voilà. Bon, on suivra ça. Merci, Pierre-Yves. Départ de la course à quelle heure demain?
Eh bien, figure-toi, ça aussi c'est l'info, ça vient d'être reculé de 20 minutes.
D'accord.
C'était 10h50, c'est 11h10, tout simplement parce que la moyenne des amateurs a été élevée, celle des femmes aussi cet après-midi. Donc,
pour
les créneaux, on démarre 20 minutes plus tard.
Ça marche. Merci Pierre-Yves, bonne soirée à toi à Cholet. Et puis on te retrouve demain donc, pour le commentaire de cette course en ligne au championnat de France de cyclisme. 18h56, on revient dans un instant, on retournera à Budapest pour les championnats du monde de natation. Les relais à suivre, encore des chances de médailles pour l'équipe de France. On ira au France d'athlètes, justement, les championnats de France à Caen, retrouver Valentin Jamin, et puis on fera monter la sauce, évidemment. C'est l'événement de la soirée, le match 5 de la finale de championnat de France de basket entre l'ASVEL et Monaco. On a envoyé du lourd, Jérémy Donzé et Stephen Brun, et on aura un invité, Ali Traoré. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.